On va parler de sécurité justement parce que c'est l'été des feux, mais c'est aussi l'été de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qu'on voit absolument tous les jours. Encore hier à la télévision, il intervient donc sur les feux, sur les violences anti-police à la Guillotière à Lyon, sur l'immigration, cette annonce d'un grand débat en octobre prochain, on va en parler tout de suite, les rodéos urbains et sur le fameux imam, si on peut l'appeler comme ça, IQ-Sen. Stanislas Rigaud, vous devriez être content, peut-être même un petit peu frustré de ne pas participer à ce grand débat à l'Assemblée nationale en octobre prochain. L'immigration, la refonte de la politique d'asile en France était le grand thème de votre champion, ça, lors de la dernière élection présidentielle.
Bon, écoutez, on est forcément déçus de ne pas pouvoir y participer directement, mais comme vous me faites l'honneur de m'inviter aujourd'hui dans votre émission, nous pouvons y participer au moins de façon extérieure pour nous avancer nos idées ou en tout cas s'assurer que les députés du camp national à l'Assemblée nationale vote ou travaille dans le bon sens pour pallier à cette question extrêmement importante qu'est l'immigration. Donc oui, forcément, il y a un sentiment de déception. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. On ne va pas passer notre temps à ressasser le passé et les échecs. Maintenant, il faut travailler pour aller dans le bon sens.
Mais vos idées se sont imposées, visiblement. Gérald Darmanin, si vous avez lu cet entretien publié dans le Figaro le 4 août dernier, fait clairement le lien entre immigration et insécurité. Ce qu'a fait votre candidat, si je peux l'appeler comme ça, votre candidat Éric Zemmour, pendant la campagne présidentielle.
Mais je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui est unanime dans le pays. Évidemment qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Personne ne peut le nier aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit sur les chiffres en Ile-de-France, par exemple, dans les transports, sur les viols, les vols à l'arraché, que ce soit sur la population carcérale aujourd'hui en France, il y a un lien entre ces deux facteurs-là. Et en plus de ça, et pardon de le dire, quand nous sommes en campagne électorale, on nous explique que nous sommes fascistes, que nous sommes racistes, que nous sommes extrémistes, etc. Et une fois que la campagne électorale est terminée et qu'on se remet au travail, même le ministre de l'Intérieur se dit « Ah bah tiens, il serait temps de se réveiller et d'essayer d'assurer de nouveau un État fort face à l'immigration de masse et face à l'insécurité ambiante du pays. »
Isabelle Florenne, au sein même des partenaires de la coalition présidentielle, on voit chez Gérald Darmanin une offensive un peu trop voyante vers la droite, voire la droite de la droite.
Je ne sais pas. En tout cas, il a une actualité pour évidemment triste. Hein. En même temps, on ne peut pas s'en réjouir pour le ministre de l'Intérieur. Hein, effectivement, avec ce que vous avez décrit et quelques violences urbaines. Il faut rappeler que vous parliez de Lyon et que le ministre de l'Intérieur, il va sur le terrain parce que si les autorités locales ne font pas leur boulot. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, on peut toujours se dire il en fait trop, il y va. Il y va pourquoi ? Il y va parce que l'État est obligé de mettre des moyens et parce qu'une dérive locale, parce que il y a notamment des autorités locales élues qui n'entretiennent pas, en tout cas qui font pas leur travail de sécurité. Et là, je veux dire que sur la question de sécurité, c'est aussi, et on en parlait tout à l'heure en parlant des moyens de lutte contre pour la sécurité civile et pour les pompiers, mais là encore l'État ne peut pas faire sans l'aide des collectivités locales et territoriales. Vous parliez on parlait de violence urbaine, mais dans toutes les cités, que ce soit aussi en banlieue parisienne, il a bien fait de le rappeler, Gérald Darmanin, c'est un travail avec les élus locaux, c'est un travail, on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe sur les rodéos urbains. On y a travaillé, j'ai travaillé sur ces sujets pendant 5 ans au sein de la commission des lois. On a fait avancer les choses sur la confiscation, mais si derrière on n'a pas de vidéosurveillance, si on n'a pas les moyens qui sont donnés aux forces de l'ordre d'intervention et de budgets conséquents qui sont votés et de moyens de police municipale,
Emmanuel Macron
derrière,
a été élu dans un premier temps en 2017.
Oui, mais là on continue ce travail, mais je vous dis que on peut dire le ministre est là, il est là souvent aussi, parce qu'il y a absence sur le terrain de travail. Vous verrez qu'il n'y aura pas d'incarnation.
Il y a aussi un défaut d'incarnation sur ces sujets-là. Alors, sur le sujet de l'immigration, notamment, février dernier, c'était avant la réélection d'Emmanuel Macron, sondage Elabe qui révélait un défaut d'incarnation. Sur l'immigration, 24% de satisfaits.
On a voté une loi en 2018.
Vous êtes beaucoup plus crédible sur l'emploi, typiquement. 40% de Français estiment que c'est bien
l'immigration,
incarné.
L'immigration, ça fait partie des sujets qui seront abordés. Effectivement, c'est bien à la rentrée. On a voté une loi en 2018. Visiblement, il y a des choses à revoir. Et c'est très bien qu'on puisse en parler et qu'on puisse en débattre à l'Assemblée et aussi en dehors de l'Assemblée.
Plus de 30 lois sur l'immigration ont déjà été votées précédemment.
Bah justement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que oui, les acteurs locaux, les élus locaux ont évidemment un rôle sur le sujet de l'insécurité. Vous parlez des caméras de surveillance, les régions, c'est les transports, etc. etc. Mais puisqu'on en parlait et qu'il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité, pour le coup, c'est à l'État de gérer cette question de l'immigration. Et que le sujet de l'immigration de masse, il n'est pas arrivé en juillet dernier, on ne s'est pas réveillé en juillet dernier en disant qu'il y a un problème d'immigration. Les centaines de milliers d'étrangers qui rentrent, sans parler des clandestins, sur notre territoire, c'est depuis 15 ans maintenant. Moi, je me souviens, je suis un fanat d'émissions politiques et je l'ai regardé il y a déjà 10 ans, les sujets étaient les mêmes. Mmh. Et M. Macron, il est au pouvoir depuis 2017. Et il était au gouvernement depuis 2015, il me semble. Il faut se réveiller là-dessus. Et si, et c'est pour ça que moi, je veux dire, c'est une fierté d'avoir fait la campagne d'Éric Zemmour, parce que si, grâce à la campagne d'Éric Zemmour, grâce à certains acteurs du plan national, que ce soit au RN, à Debout la France ou certains LR, on réussit à faire avancer le gouvernement là-dessus, c'est un premier pas. Mais je crois que le gouvernement n'ira jamais assez loin pour une raison très simple. C'est que pour des raisons électorales et pour des raisons d'équilibre politique, ils oscillent entre la droite et la gauche, en témoigne M. Oulier, qui lui veut faire voter les étrangers aux élections municipales.
On va en parler dans quelques instants. On marque une petite pause et on revient dans Europe Midi pour le débat. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour dans Europe Midi, je suis avec Isabelle Florenne, porte-parole du Modem, et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Stanislas Rigaud, qui ne croyait pas aux réelles intentions de lutter contre l'immigration et l'insécurité de Gérald Darmanin juste avant la pause, Isabelle Florenne.
Je peux comprendre que l'opposition soit dubitative, surtout que pour l'instant...
Vous avez dit qu'il n'irait pas assez loin.
Oui, non, pardon, je disais juste, un mot avant de laisser parler Mme Florenne, en un seul mot, je dis, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Si en 5 ans, ils n'ont rien fait, alors qu'on connaissait ce problème-là...
J'ai pas déformé vos propos. Isabelle
Alors, on ne peut pas dire que pendant 5 ans, on n'a rien fait. On a voté une loi, mais sûrement 2018, avec Gérard Collomb, sur l'immigration, qui correspondait effectivement aussi à des sujets qu'on a en partie réglés et en partie pas réglés, parce que c'est clair que la question sur laquelle et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ont à travailler, c'est la question notamment du retour des clandestins, notamment du retour des personnes condamnées. Là, c'est vraiment les sujets qui se posent dans une actualité quand même assez brûlante. C'est ces fameuses obligations de quitter le territoire que nous n'arrivons pas à faire exécuter, tout simplement parce qu'il faut souvent des visas dans ces pays de retour, et que quand le visa n'est pas accordé par le pays de retour, c'est pas possible d'expulser la personne. Donc là, c'est quand même des sujets.
Et dans le cas du prédicateur IQSEP, le Maroc a donné son accord.
Donc là, il y a un autre sujet qui se pose. Soit la justice administrative. Il y a un premier sujet, c'est le mémoire de présentation. Moi, je me pose des questions parce que quand même, il y a de la matière. Donc, il y a peut-être une question d'écriture du mémoire sur la première partie qui est refusée au tribunal administratif. Maintenant, c'est au Conseil d'État de juger du recours du ministre de l'Intérieur. Si le Conseil d'État ne va pas, enfin, en tout cas, pour nous, au Modem, je veux dire, la question se posera s'il ne va pas dans le sens du ministre, c'est-à-dire compte tenu des propos qui ont été tenus, des principes républicains qui sont mis en cause, il faudra revoir la loi. Moi, je vous le dis carrément, il faudra revoir la loi pour aller dans le sens quand même des propos et de la question qui se pose de quelqu'un qui est quand même maintenant connu, qui fait du battage médiatique autour de ses propos, qui a une vraie capacité d'influence bien au-delà d'une mosquée. Puisque quand
il
on
a
fait
170 000 followers, absolument. Suiveurs sur
Donc
sa
là,
chaîne YouTube.
Là, ça pose une question de droit. Et effectivement, il faudra la poser. Cette question-là, il faudra la poser.
Revoir le pouvoir du juge, mais vous faites du Éric Zemmour.
Non, revoir la loi. Revoir la loi, parce que si le Conseil d'État considère qu'effectivement, les propos et le travail mené par l'imam, en tout cas de ce prédicateur et ses propos dans notre pays, sont pas considérés comme un danger et une menace, à ce moment-là, ça nous interroge, nous, en tant que citoyens,
combien de
en tant que parlementaires.
En ce moment
justement, c'est tout le sujet. Le problème, c'est que les lois en créer, c'est bien, mais encore faudrait-il les appliquer. On parlait des OQTF à l'instant, les obligations de quitter le territoire. Pardon, mais il y en a un dixième C'est le Figaro qui révélait ça en 2021. Il y a un dixième des OQTF qui sont appliquées. Là, on a un imam, aujourd'hui connu de tous, grâce aux médias, grâce à la médiatisation de cette affaire-là, et on n'arrive pas à l'expulser. Mais pardon, ce qu'a fait le tribunal administratif, c'est une honte, parce que cet homme-là, cet imam-là, pardon de le dire, mais ce n'est pas seulement des propos, ce n'est pas seulement un polémiste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui amène quelque chose au débat. C'est quelqu'un qui, par ses propos, peut entraîner la mort de Français sur notre sol. Parce que ce discours-là qu'il tient auprès des jeunes, ce discours anti-France, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un discours anti-France, anti-Occident, ce discours-là, il peut entraîner des morts. Et quel signal on envoie aujourd'hui à toutes ces personnes en train de se radicaliser quand on voit qu'on n'arrive pas à en expulser un? C'est pas 40, c'est pas 200. Je comprends qu'il y ait, je vais être honnête, je comprends qu'il y ait des problèmes quand on parle de milliers de personnes expulsées et qu'il faut que ça suive logistiquement, il faut que ça suive juridiquement. C'est un gros rythme. Là, on parle d'une personne dont le ministre de l'Intérieur en personne s'occupe. Alors, pardon de le dire, mais si on n'est pas capable de faire ça, ça devient gravissime. Et puis, pour finir là-dessus, c'est la phrase, moi en tout cas, j'aime, c'est une phrase que j'aime bien de Bonaparte, je crois, mais c'est « quand on veut, on peut, quand on peut, on doit ». À un moment donné, on va arrêter de tourner autour du pot. Cette personne-là, manu militari, dehors, il n'y a aucune raison que ces gens-là restent sur le territoire. Et pour tous les autres, il faut absolument se donner les moyens et vraiment le faire. C'est-à-dire que parler, c'est très bien. Moi, je suis d'accord et je crois souvent des personnes de la majorité sur des plateaux TV ou sur votre émission. On est d'accord sur le constat. Non, il faut agir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire...
Il faut mettre un coup de canif dans l'état de droit, si je vous comprends bien.
Mais c'est pas l'état de droit. En fait, l'état de droit doit aussi s'adapter aux nouvelles menaces. Pardon, mais l'état de droit, il n'a pas été adapté, encore une fois, tout le discours d'Éric Zemmour, au problème du fondamentalisme islamique. Il n'est pas adapté. Donc peut-être que si ces gens sont des menaces pour le pays, ben pardon, moi je préfère virer ce type-là contre l'avis du tribunal administratif de Paris, il me semble, que de savoir que ce type-là va peut-être entraîner la mort de mes concitoyens par son discours de haine.
Alors, le cas de ce prédicateur, ça nous force à la radicalité, comme ça, Isabelle Florenne ?
Je ne dis pas la radicalité, je dis...
C'est ce que j'entends par là.
Oui, oui, mais forcément, donc, ça provoque un sentiment d'incompréhension dans l'opinion. Et moi, ça, je peux tout à fait le concevoir, hein, évidemment. C'est pour ça que je dis que soit on trouve les moyens dans l'état de droit, justement, de faire expulser cet imam et il sera recueilli et j'espère jugé. En tout cas, dans son pays, mais pour le coup, l'état de droit, il existe. Moi, j'y crois. Je dis simplement, on doit être vigilant. Si il y a effectivement une approbation qui est donnée sur cette expulsion par le Conseil d'État, ce que je souhaite, le ministre et nous en serons satisfaits. Sinon, ça mérite évidemment. C'est un coup qui est porté. C'est une atteinte à la République. Je ne dis pas qu'il faut revoir. Moi, je crois à la loi. Je crois à la force de la loi. Je crois à la force du droit. C'est encore ce qui nous reste dans notre pays. C'est ce cadre juridique. Et il faut tenir bon. Alors, moi, je vous dis, à l'origine, je me pose aussi la question du travail qui a été fait, du mémoire. Vous savez très bien que quand on expulse, il faut faire ce travail administratif de mémoire, d'expulsion, en tout cas d'argumentation.
Et là, je me pose la question.
Je n'ai pas ce dossier. Je me pose la question de ce travail initial.
Alors, vous êtes peut-être allé voir les vidéos de cet imam sur sa chaîne YouTube.
Bon,
habilement, il arrive à entretenir une sorte de double discours.
Mais c'est un travail de prosélytisme, de remise en cause des principes républicains, de nos valeurs, d'égalité homme-femme, sur tous ces sujets. Et je me demande si le juge administratif, lui, est abonné un petit peu à Internet.
Oui, mais voilà, mais c'est ça tout le problème. C'est fait. Le tribunal administratif, si lui n'est pas capable de faire ce que fait un enfant de 16 ans, un ado de 16 ans, à savoir aller voir ce qui se passe sur le net, ça devient gravissime. Deuxième chose, on sait qu'ils nous dupent, on sait que ce sont leurs méthodes de jouer avec les règles. Quand on sait que quelqu'un nous dupe, même le meilleur arnaqueur du monde, il peut vous blablater pendant des heures. À la fin des fins, vous savez que c'est un arnaqueur et vous ne vous laissez pas avoir. Pour moi, on est un peu dans la même logique. Troisième point, et pas des moindres, il ne faut pas que cet état de droit puisse servir à des gens qui haïssent le pays. Il ne faut pas que ce soit que ça devienne une faiblesse. C'est une force en France, et je suis d'accord, c'est un trésor. Et bien ce trésor de l'état de droit, on doit le préserver de façon à ce qu'il ne puisse pas servir à ces gens-là qui ont de mauvaises intentions à l'égard de notre pays. Il faut absolument le préserver. Si ça doit passer par des lois à l'Assemblée nationale, ça passera par des lois à l'Assemblée nationale. Très bien.
Mais il y en a une qui s'est attaquée précisément à ce problème, la fameuse loi séparatisme.
C'est ce que j'allais vous dire. Encore une fois, les lois, on en a un arsenal judiciaire qui est puissant. Mais là, on a 90% de Français qui ne comprennent pas pourquoi cet imam n'est pas expulsé. C'est là, c'est pas une question de radicalité.
On a voté, voté la loi. J'ai participé de façon active à cette loi sur le séparatisme. Là, on a l'arsenal juridique. Moi, je le pense en tout cas. Et là, il y a des faillances. Alors, est-ce que il y a une défaillance sur l'écriture et l'argumentation, sur la proportionnalité?
C'est grave.
Après, c'est des juges.
Et dans ce cas, c'est grave.
Moi, pour moi, je suis d'accord. Il suffit d'aller voir. Mais peut-être eux ont considéré qu'il y avait disproportion, hein, en tout cas ce qui moi m'étonne vraiment, et puis qu'il y avait des responsabilités, une vie privée, une vie familiale sur le territoire. C'est pas à ce stade, il me semble que c'est pas entendable par la population. C'est les réactions en témoignent cette semaine et depuis 10 jours sur le sujet. Donc attendons maintenant l'avis du Conseil d'État et le jugement du Conseil d'État.
Le 26 août.
Le 26 août. Très très brièvement, lors de la crise du Covid, le gouvernement a pris des mesures d'exception parce que la situation était exceptionnellement grave. Eh bien écoutez, quand on a des cas comme ça, par exemple, je prends un exemple très simple, la liberté de culte a été empêchée pendant le Covid. Je ne rentre pas dans ce débat-là pour autant.
Le Conseil d'État avait tranché en faveur des cultes.
Et ben voilà. Et ben justement, j'espère que le Conseil d'État fera la même chose aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a été capable et a montré qu'il était capable de prendre des grosses décisions importantes. Et bien sur la question de la sécurité, d'immigration et d'islamisme, qu'il en fasse de même.
Voilà, le cas Iqiyoussen qui s'inscrit aussi dans une offensive politique de Gérald Darmanin à droite, ce qui a le don d'agacer l'aile gauche de la Macronie. En tout cas, un député issu de cette aile gauche, Sacha Houlier, on en a parlé, a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Par étrangers, on entend ressortissants qui ne viennent pas de l'Union européenne, parce que les membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales en France, et c'est déjà le cas. Alors, ça sème le trouble au sein de la majorité. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, était notre invité ce matin. Il y est totalement opposé, lui.
Moi, à titre personnel, j'y suis totalement défavorable, ce droit de vote des étrangers. Je préférerais, comme on le fait d'ailleurs dans nos collectivités, faire avancer la cause de la naturalisation. On a un certain nombre d'habitants qui souhaitent être naturalisés. À partir du moment où ils souhaitent être naturalisés, aucune difficulté, bien évidemment, avec l'aide des préfets, et de diligenter cela avec les mairies, de pouvoir le faire. En revanche, et il faut le dire, c'est pas une majorité, évidemment, mais on a encore aujourd'hui des étrangers qui ne souhaitent pas être naturalisés français. Dès lors où ils ne souhaitent pas être naturalisés français, je ne vois pas pourquoi on leur permettrait de pouvoir avoir accès au vote. Ouais. On n'achète pas un vote avec un impôt.
On vous a déjà entendu sur cette question, Isabelle Florenne. Vous êtes sur la même ligne que Carl Olive.
Oui, au Modem, je pense aussi plus largement qu'il y a la question de la citoyenneté, de l'accès à la citoyenneté par la naturalisation, quand on n'est pas né dans le pays ou qu'on n'a pas des parents, donc droit du sang, droit du sol. Donc il y a la naturalisation. Peut-être que là, il y a un travail à faire sur la naturalisation. C'est certes certaines personnes ou ne souhaitent pas ou ne souhaitent pas engager de procédure de ce type et sont parfois, depuis très longues années, résidents en France. Donc ça, c'est un sujet. Mais nous, le deuxième sujet le plus important pour le Modem, c'est la lutte contre l'abstention. La question de l'abstention, plus de 50% des électeurs, plus de la moitié des électeurs ne sont pas déplacés pour les élections législatives. Ça donne des résultats parfois quand même assez surprenants dans certaines circonscriptions, mais de scores d'abstention importants. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a beaucoup de solutions au contraire, mais il y a évidemment à se poser des questions politiques, mais il y a la question des solutions. Là-dessus, il y a des bonnes propositions de loi. Il y a une inscription automatique sur les listes électorales maintenant qui a été proposée par un député de Mayenne, Monsieur Favennec. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant d'aller vers ce type de solution. Et c'est plutôt notre sujet, vous voyez, à Modem. C'est plutôt la lutte contre l'abstention que le droit de vote des étrangers.
Oui, Stanislas Rigaud. Deux gros sujets. Évidemment, l'abstention qui est un fléau dans ce pays, mais qui ne se réglera pas par le vote des étrangers, pardon de le dire. L'inscription automatique sur liste électorale est une très, très, très bonne chose. Et pour finir en un mot, ce que va encourager cette loi, si elle devait passer, ce que je ne crois pas, ce serait le clientélisme.
Hautement improbable.
Hautement improbable, ce serait le clientélisme de nouveau et le communautarisme encore plus, où les acteurs politiques feraient tout pour draguer certaines populations d'origine étrangère, etc., etc., pour se faire élire, comme ça a été fait dans certains endroits en France à l'occasion des élections législatives.
Merci Stanis Sarrigo. Décidément, c'est l'été des serpents de mer, le droit de vote des étrangers, puis il y a aussi ces sénateurs socialistes qui appellent à légaliser le cannabis. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci Isabelle Florenne, porte-parole du Modem. Merci Stanis Sarrigo, président de Génération Zemmour, porte-parole de Reconquête. C'est ainsi que s'achève ce dernier numéro d'Europe Midi cette semaine. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous retrouve lundi. Merci à Jean-Luc Boujon qui était à la rédaction en chef. À la semaine prochaine. Bon week-end.